Mesdames, Messieurs, je m'adresse à une population qui a passablement entendu parler de crédit social depuis ma première tournée dans le nord-ouest québécois il y a 18 ans. Vers demain, il y a circulé. De nombreux conférenciers y sont venus. Je ne m'attarderai donc pas ce soir à exposer les propositions monétaires du crédit social formulées pour la première fois par un homme de génie, l'ingénieur écossais Douglas. Je m'étendrai davantage sur l'action politique telle que recommandée par le même génie Douglas pour arriver à l'institution d'une économie créditiste. Le but du crédit social dans l'ordre économique, c'est de permettre à tous et à chacun de se procurer une part suffisante des biens abondants du pays pour jouir d'une honnête subsistance sans aucun accroc à leur liberté personnelle, ce que ferait magnifiquement un dividende périodique à chaque citoyen, joint au mécanisme d'ajustement des prix tel que préconisé par Douglas. La doctrine du crédit social, si conforme à la logique et à l'humain, trouve généralement bon accueil tant qu'elle ne se heurte pas à des préjugés ou à des intérêts politiques ou économiques malsains. Il y a d'ailleurs eu des progrès réalisés, non seulement dans la diffusion de l'enseignement créditiste, mais aussi du côté de la législation. C'est en 1940 que cette région reçut le message créditiste pour la première fois. On n'admettait point en ce temps-là de l'argent non gagné. Pour avoir de l'argent, il fallait être employé dans la production. Or, en 1944, le fédéral instituait les allocations familiales, qui ne sont certainement pas liées à l'embauchage des enfants, ni au genre d'occupation du père de famille. Ces allocations sont un dividende aux enfants. De même, on a aujourd'hui un dividende aux vieillards, dans la pension de vieillesse à 70 ans, accordée à tous, sans autre condition que l'âge, sans égard à l'occupation ou au degré de fortune de la personne. Et le montant de dividendes aux vieillards, après des hausses successives, est aujourd'hui de 55 $ par mois. On peut mentionner pareillement l'argent distribué en pension ou allocation aux invalides, aux aveugles, aux mères nécessiteuses, etc. Dans tous ces cas, c'est de l'argent lié à la personne et non pas à l'emploi. Argent distribué dans un but qui s'approche de l'objectif même du crédit social, pour que tous et chacun ait une part suffisante des biens abondants du pays. On objectera que ces pensions et allocations sont financées par des taxes. C'est vrai, parce que l'on n'est pas encore sorti du régime de l'argent approprié par les banques à sa naissance et libéré seulement sous forme de dettes chargées d'intérêts. Mais pour que l'on puisse ainsi extraire plus d'argent du public, il a tout de même bien fallu commencer par en mettre plus en circulation. Il reste évidemment du chemin à parcourir. Sans arrêter ni ralentir notre lutte pour l'instauration d'un régime vraiment créditiste, reconnaissons au moins que le travail fait par les créditistes par vers demain depuis deux décades n'a pas été sans porter déjà certains fruits. Une mentalité nouvelle se crée. On admet de plus en plus que même les gens qui ne gagnent rien ont le droit de vivre, et que pour exercer ce droit de vivre, ils ont besoin d'argent. C'est un progrès sensible. Quelle méthode d'action le mouvement créditiste formé autour du journal Vers demain met-il en œuvre pour chercher des résultats? Ce fut exprimé dès le début. Renseigner les citoyens, puis les unir pour réclamer de concert ce que tous s'entendent à trouver juste et urgent. Vers demain fut fondée par Mademoiselle Gilberte Côté, aujourd'hui Madame Côté-Mercier, et moi-même, il y a 19 ans, premier numéro, 1er novembre 1939. Et pour répandre vers demain, pour réaliser l'œuvre entrevue d'éducation et de formation d'hommes, elle et moi encore, nous lancions dès avril 1940 l'Institut d'action politique. Il s'agissait bien d'action politique, le nom le dit, mais pas d'action électorale. Les appels successifs dans Vers demain le signalaient. Ainsi, le 15 juin 1940, Verdemain écrivait « L'Institut d'action politique cherche et enrôle des apôtres dans l'ordre social temporel. Il ne frappe pas la porte des riches comme les partis politiques. Il frappe à la porte des hommes de cœur qu'afflige le désordre social de notre époque et de notre propre pays. » C'était là signifié dès le début l'esprit de l'Institut d'action politique, l'apostolat. L'Institut ne cherche pas des politiciens, il n'envisage pas des députés à siège, mais des apôtres à chemin, des apôtres qui prennent la route, vont aux maisons y porter la vérité libératrice du crédit social et apprendre aux citoyens à s'unir au lieu de se diviser en partis politiques pour demander ensemble des choses bonnes pour tous et nuisibles à personne. La première réponse vint de Gérard Mercier, et il est encore là aujourd'hui, n'ayant jamais suspendu d'une seule journée le don total de lui-même à la cause. D'autres, en grand nombre, ont joint les rangs. Quelques-uns offrent tout leur temps pendant plus ou moins d'années. D'autres, plus nombreux, consacrent leurs loisirs, surtout leur fin de semaine, à ce travail d'apôtre. Tous sans rémunération matérielle, sans chercher ni recevoir d'honneur politique, et souvent au prix d'incompréhension et de multiples sacrifices. Je dois ici rendre un hommage spécial à ma grande collaboratrice de toujours, Mme Gilberte Côté-Mercier. C'est elle qui a le plus particulièrement contribué à insuffler ce bel idéal à notre mouvement et à l'y maintenir dans toute sa pureté. Est-ce pour cela qu'elle est la cible principale des attaques virulentes de ceux qui voudraient voir le mouvement s'abaisser à servir leur petite politique électorale? Le 1er décembre 1942, le journal Verdemain, à peine âgé de 2 ans, lançait le vocable « Union des électeurs » pour mieux désigner le mode de politique que notre mouvement grandissant comptait pratiquer, la politique de pression. Mais, comme toute institution terrestre, l'Institut d'action politique ne fut pas à l'abri d'éléments humains de diverses nuances au cours de son développement. Sous des pressions internes, il consentit momentanément à des aventures électorales, dont le point culminant fut en 1948, ce qui faillit coûter la vie de Verdemain et la paralysie du mouvement. Mais l'Institut sut se ressaisir, donner un coup de barre, et au prix d'efforts énormes, guérir les blessures reçues et retrouver sa belle orientation première, ajoutant l'expérience acquise à la pureté d'intention de ses fondateurs et de leurs collaborateurs fidèles. Ce redressement n'a pas plu aux électoralistes du mouvement, à ceux-là justement qui avaient été le plus ardents à nous pousser dans la bagarre des élections et les plus empressés à se retirer sous leur tente après l'échec, laissant aux autres, aux vrais apôtres du mouvement, le soin des réparations. Ces créditistes superficiels, mordus d'élections, ont fini par prendre le large et former autour de Réal Caouet le petit groupe qui prétend être un ralliement quand il n'est qu'une secte sortie des rangs. Ils n'ont rallié de fait que les débris de l'insignifiante ligue accrochée au Parti fédéral de Solonneau à la veille de son enterrement électoral. Le Social Credit Secretariat, organisme fondé par le major Douglas lui-même, a réédité cette année une conférence donnée par le fondateur du Crédit social le 7 mai 1936. Ce jour-là, Douglas ne parlait pas à un public quelconque, mais à des créditistes. Il leur donnait son avis sur l'action à faire politiquement pour la cause. Nous n'avons connu ce texte que cette année-ci, mais nous sommes heureux de constater que Douglas y recommande lui aussi la politique de pression et condamne vigoureusement la méthode parti politique, surtout celle d'un parti du crédit social. Il condamne cette méthode non seulement parce qu'elle est d'avance vouée à l'échec, mais parce que c'est lié la belle chose qu'est le crédit social à une politique de boîte électorale. Le fondateur du crédit social allait jusqu'à dire à ses créditistes, « Si vous élisez un parti du crédit social, en supposant que vous en soyez capable, je puis vous dire que je considérerais l'élection d'un parti créditiste au pouvoir en ce pays comme une des plus grandes catastrophes qui puissent arriver. La fonction propre d'un député, expliquait Douglas, c'est de recevoir et transmettre au gouvernement l'expression de la volonté légitime de ses électeurs. La fonction propre d'un gouvernement, c'est d'accueillir cette demande et de donner aux experts l'ordre d'y faire suite. Aux experts, donc aux financiers pour la finance. Non pas de dire à ces experts comment s'y prendre, mais leur désigner le résultat à obtenir et exiger ce résultat. Et le rôle du peuple, lui, c'est de prendre conscience des objectifs qu'il veut communément et d'exprimer cette volonté à ses représentants. C'est là que ça doit commencer, de là que ça doit partir, de chez les électeurs. Au lieu donc de dépenser du temps et de l'argent à monter une machine électorale contre une autre, pour chercher à élire un candidat plutôt qu'un autre, apprendre aux électeurs à demander à l'élu, quel qu'il soit, ce que les individus et les familles désirent d'un commun accord. Cela se fait mieux entre les élections, quand se passent les lois et les règlements qui affectent notre vie. Au lieu de placer l'importance sur l'élu, la placer sur les électeurs. Au lieu d'aligner les électeurs derrière un candidat auquel on décerne tous les prix de vertu, faire prendre aux citoyens conscience de leur rôle. Cela se fait-il dans votre propre région? Dans le comté de Villeneuve, par exemple, quand est-ce qu'une majorité ou même un nombre imposant de ces 30 000 électeurs ont demandé et redemandé de concert à leurs députés Dumas ce que certains prétendent obtenir en essayant d'élire Caouette au lieu de Dumas? Le député Dumas, pas plus qu'aucun autre, n'a besoin d'être créditiste ou n'importe quoi pour transmettre au gouvernement une demande qui émanerait de l'ensemble de ses électeurs. Selon les mots de Douglas, si vous admettez que le but en envoyant des représentants au Parlement, c'est d'obtenir ce que vous voulez, pourquoi élire une catégorie spéciale d'hommes, un parti spécial plutôt qu'un autre? Les hommes qui sont là sont capables de commander ce que vous demandez, et c'est leur rôle. Ce n'est pas leur rôle de dire comment cela doit être obtenu. Le comment doit être laissé aux experts. C'est le quoi qui doit être signifié aux experts, et le quoi doit procéder d'abord de la population elle-même. L'électoralisme a perverti le sens de la démocratie. Les partis politiques n'ont fait que diviser le peuple, affaiblir sa force, le conduire aux déceptions. Y ajouter un autre parti ne pourrait qu'ajouter une autre déception sous un nouveau nom. Déception d'autant plus funeste que l'aventure traîne avec elle le nom d'une cause excellente en soi comme celle du crédit social. Le périple du Parti fédéral de Solonneau devrait avoir ouvert les yeux de tous. Après 23 ans d'électoralisme, qu'en reste-t-il? Si au lieu de pousser vers demain avec sa vertu formatrice, nous avions poussé une aile de ce parti du crédit social, où serait notre affaire depuis le 31 mars dernier? Si c'est le vote donné à un candidat créditiste qui doit exprimer la volonté créditiste de la population, comment se fait-il que Solonneau soit passé de 4000 voix de majorité en 1954 à 6000 voix de minorité en 1958? En moins d'un an, de la part du même électorat, dans son comté de Rivière à la paix, nous qui travaillons sans relâche depuis plus de 20 ans à la cause de tous, non pas à la cause de quelques hommes d'Aïlire, nous voulons éviter au peuple la nouvelle déception où le conduirait son attachement à un parti dit créditiste. C'est pourquoi nous ne cesserons de dénoncer ceux qui ternissent ainsi la pensée de Douglas lui-même, en faisant d'une cause sacrée l'escabeau de leurs petites ambitions politiques. Ces idées sont forcément résumées dans une causerie d'un quart d'heure, pour vous renseigner tant sur la doctrine du crédit social que sur le mouvement authentique qui le propage et sur la politique de l'Union des électeurs, lisez régulièrement le journal Vert demain.